Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Entrepreneuriat pour tous, le podcast de Ladi à Audencia, qui explore l'entrepreneuriat ou comment chacun peut, à sa manière, devenir acteur de changement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un entrepreneur, Frédéric Mazella, qui a fondé Blablacar et Dift pour découvrir comment son aventure a commencé entre intuition, expérimentation et rencontre. Bonjour Fred.
Bonjour Inès.
Est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter comment tu as fait pour créer Dift, tes premiers pas dans le projet, et qu'est-ce que tu avais sous la main, en termes de compétences, en termes de...
Ah oui, alors sur la création de Dift, j'étais un petit peu plus équipé que sur la création de Blablacar, dans le sens où j'avais déjà l'expérience entrepreneuriale et puis j'avais déjà, la capacité à aller chercher, constituer une équipe plus facilement pour recruter et puis la capacité aussi à aller chercher des fonds, ce qui aide beaucoup. Et puis l'expérience d'avoir déjà imaginé un service qui n'existe pas et avoir eu la persévérance pour le faire avancer. Donc voilà, c'était une expérience très différente pour moi de créer Dift par rapport à créer Blablacar.
Est-ce que tu veux nous expliquer le début de Blablacar?
Bah, le début de Blablacar, c'est...
Qu'est-ce que tu avais sous la main au début?
T'es tout seul chez toi avec ton ordinateur et ton chat. Et tu essayes de développer un service avec une idée. Donc heureusement, je savais coder, donc je pouvais moi-même développer les premières versions du site. Oui, c'est assez différent. Et en même temps, il y a des choses qui sont très similaires. Les choses qui sont très similaires, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, on est sujet à beaucoup d'interrogations de par son entourage. On n'est pas très à l'aise sur l'explication de ce que l'on fait aussi, parce que nous-mêmes, on n'a pas encore totalement intégré ce qui fait que quand on présente son projet, on va réussir à convaincre d'autres gens autour de nous. On ne s'est pas bien pitché, en gros, pour résumer. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il passe son temps à pitcher. Il pitche à tout le monde. Il va pitcher à des potentiels clients, mais il va aussi pitcher à des potentiels collaborateurs, pitcher à des potentiels investisseurs, pitcher à des médias, si on doit expliquer ce qu'on fait, pitcher à des... toutes sortes de partenaires possibles. Et donc ça prend un petit peu de temps. C'est que quand on a bien compris ce qu'on fait et la valeur ajoutée qu'on apporte à chacun des acteurs avec lesquels on interagit, qu'on arrive à être assez efficace.
Et toi, tu penses, pris combien de temps pour au début à Blablacar à réussir à bien pitcher, bien l'expliquer?
Je dirais quelques années, hein, parce que c'était confondu avec beaucoup d'autres choses, en plus au début le covoiturage, hein, c'était confondu avec de l'autopartage, c'était confondu avec de l'autostop, confondu avec je ne sais quoi. Du taxi, tu vois, on a tout eu. Donc, pour réussir à bien ancrer ce que tu fais sans être happé, j'ai envie de dire, par tout un tas d'autres activités à côté, ça prend un petit peu de temps pour bien le définir, bien avoir un produit qui répond exactement à ça, avoir aussi la crédibilité de l'usage derrière toi pour montrer que tu n'es pas en train de fabuler, de raconter quelque chose qui n'existera pas. Qui n'existe pas du tout. Donc, tout ça prend un petit peu de temps. Puis après, il y a toute l'exécution sur comment tu orchestres, construis une équipe avec les bonnes compétences pour livrer ce que tu dois livrer. Donc voilà, c'est évidemment, c'est toujours une expérience très, très excitante de créer un nouveau projet. Là, je vois avec Dift, on est en train d'arriver au stade où ça y est, les gens commencent à comprendre ce que l'on fait. Alors, c'est soit qu'on
après
est devenu meilleur à présenter ce qu'on fait, soit... parce que des gens l'ont déjà utilisé, eh bien, ils ont vu comment ça fonctionne. C'est un petit peu tout ça. C'est aussi qu'on a fait un travail de clarification et même de présentation, de branding même autour de concept. Hein. Voilà, Dift, c'est extrêmement simple. C'est don plus gift. C'est vraiment un don cadeau. Donc déjà, rien qu'avec ça, on explique plus facilement ce que l'on fait. C'est un mot aussi très simple et qui se retient. Et puis, on a des grands partenaires qui nous aident à diffuser la marque et le concept. Petit à petit, le Dift fait son chemin. Et puis nous-mêmes, en tant qu'équipe, on devient plus complémentaire, plus aguerri sur toutes les disciplines qu'il faut maîtriser pour construire le projet. Donc voilà, ça prend toujours un petit peu de temps, surtout quand on est sur des concepts nouveaux. Mais voilà, c'est bien parti là.
Chouette. J'ai encore une autre question. Enfin, j'ai plusieurs questions. Ma seconde, c'est lancer un projet comporte toujours des incertitudes. Comment tu as décidé jusqu'où tu pouvais aller sans te mettre en danger entre ton équilibre personnel et professionnel?
Alors,
surtout pour Blablacar, du coup.
Oui, mais c'est bah tu le sens, tu sais quel risque tu peux prendre sans te faire mal, entre guillemets. Je pense que c'est comme quand tu fais des sports, même, je sais pas, tu prends des sports de glisse, des sports où tu sais où tu te mets en danger, tu sais jusqu'où tu peux aller pour à la fois tenter quelque chose de nouveau et en même temps ne pas te faire mal si ça se passe pas bien. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est un petit peu ce que tu fais en permanence. Tu testes et puis tu essaies d'éviter le gadin qui va te mettre complètement par terre, quoi, parce que sinon, tu te relèveras pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas se mettre en risque financier démesuré. Ça veut dire que si un coup dur arrive, tu dois te débrouiller pour quand même être encore en vie au niveau de l'activité, c'est-à-dire pas devoir mettre la clé sous la porte si t'arrives un coup dur. Donc, tu essaies d'anticiper tous les coups durs qui peuvent t'arriver et tu essaies aussi d'être le plus économe possible pour faire avancer tes sujets sans te mettre dans une zone de risque de non-retour. Donc ça veut dire planifier sa trésorerie à l'avance, ça veut dire quand tu lances quelque chose, savoir combien ça va te coûter, et vérifier que si ça ne marche pas, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à vendre ce que tu as conçu, eh bien tu ne seras quand même pas mort, tu seras quand même dans une zone où tu pourras réessayer autre chose, c'est-à-dire que tu mesures les moyens que tu vas mettre en face de ton ambition. Ça veut dire aussi s'entourer des meilleures personnes que tu croises. Alors ça, c'est un peu le luxe aussi de l'entrepreneur, hein, de pouvoir choisir avec qui il va travailler. Ça, c'est assez magique. Mais du coup, tu as cette chance-là quand tu es entrepreneur d'aller recruter des personnes avec qui tu as vraiment envie de construire quelque chose, de travailler et avec qui tu dois être le plus complémentaire possible pour...
La suite, ma prochaine question.
Ah bon, j'ai cité, pardon.
Non, mais c'était parfait, ça fait une transition parfaite. Dans ton parcours, quelles personnes ont joué un rôle clé et comment ces collaborations ont fait que ça a transformé ton projet?
Alors, beaucoup. Il se trouve que moi, je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'adore les gens. Tu sais, la citation que je préfère au monde, c'est celle de Galilée qui dit « Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'avait rien à m'apprendre. » Et donc ça te place la curiosité aussi par rapport à toutes les rencontres que tu peux avoir. Tu as des choses à apprendre de toutes les personnes que tu croises. Et donc, bah, tu t'entoures de gens qui apportent des choses que tu ne connais pas, surtout ce qui est assez important et parfois un peu contre-intuitif, c'est que justement, il faut essayer de s'associer avec des gens qui savent faire des choses que tu ne connais pas. Donc, c'est très important, non seulement parce que ça va permettre au projet de disposer de beaucoup plus de compétences, mais aussi parce que ça laisse à chacun un champ d'expression très large, puisque chacun sait faire des choses que l'autre ne sait pas faire à côté. Donc, c'est un peu comme un puzzle, si tu veux, une équipe. Hein. Toutes les pièces sont importantes. T'enlèves une pièce, ça ne fonctionne pas. Et c'est que, mises tout ensemble, que les pièces forment un tout qui est cohérent. Voilà, et au-delà de ça, toutes les pièces sont différentes. C'est l'assemblage qui fait la force. Donc, c'est ça, construire une équipe, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à faire, à fonctionner, savoir les moteurs de chacun, les périmètres d'action que chacun peut avoir. Et puis après, la confiance pour lier le tout et faire en sorte qu'on se tende la main et qu'on s'entraide sur les petites parties. Pour qu'il n'y ait rien qui tombe, si tu veux, entre les pièces, quoi. Que tout soit bien raccordé.
Super, merci. La quatrième question, les choses, elles ne se passent pas toujours comme prévu. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un imprévu, d'une chose qui s'est passée, qui fait que tu as eu une surprise et ça a pu se transformer en opportunité?
Alors, bon, y a les surprises, les trucs totalement imprévus, enfin, ou en tout cas pas planifiés, comme, je sais pas, la pandémie qui débarque sur un service de transport qui s'appelle BlaBlaCar. Là, en fait, on t'explique du jour au lendemain que, en fait,
Stop.
tu peux plus te déplacer et tu dois plus rencontrer des gens que tu connais pas. Donc, comment te dire, quand tu fais du covoiturage, ça se voit, c'est-à-dire
Ça
que
s'est
là, bah,
passé
t'as une chute
comment?
de trafic de 99,8%, hein, c'est pas compliqué. 13,02% de trafic, donc là,
Comment
ça
ça
se
s'est
voit.
passé pour
Ah,
BlaBlaCar?
bah, ça a été compliqué, mais justement, on avait bien planifié parce qu'on avait suffisamment de trésorerie pour tenir un coup dur comme ça, quoi.
OK.
Qui pourtant n'était pas prévu, mais on avait suffisamment d'argent pour encaisser un stop d'activité comme ça,
BlaBlaCar
brutal.
a été ancré déjà depuis pas mal de
Oui,
temps et du
ouais.
coup.
Et puis après, c'est reparti post-pandémie, donc heureusement. Mais autrement, bon, ça, c'est les choses que les coups durs que tu peux encaisser. Mais il y a aussi tout simplement des essais qui ne fonctionnent pas, tu vois, que ce soit chez BlaBlaCar ou chez Deeft. Bon, bah, on essaye plein de choses. Chez BlaBlaCar, on a essayé six modèles économiques avant de trouver celui qui finalement allait nous permettre de grandir, d'étendre le concept, y compris à l'international. Ça veut dire que 5 fois, on s'est planté. 5 fois, on a fait
On a fait des plans en s'imaginant que ça allait marcher comme ça, et puis c'est pas ça qui s'est passé. Le modèle économique ne tenait pas. Bon, tu regardes chez Dift, c'est pareil. On enchaîne actuellement plusieurs modèles économiques pour trouver le bon, faire en sorte que ben, nos essais nous rendent plus forts et qu'on finisse par trouver le bon équilibre pour pouvoir faire grandir le concept. Donc ça, c'est aussi une forme bon, d'une part de résilience, mais aussi de persévérance sur essayer. Et quand ça ne marche pas, ne pas se formaliser, passer à autre chose, changer de stratégie, changer de technique. C'est très important, ça. Donc, ça s'appelle itérer, si tu veux. Passer d'un modèle à un autre jusqu'à ce que tu trouves ce qui fonctionne. Ça, c'est très, très entrepreneurial comme démarche. Et il faut vraiment l'avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester bloqué sur un truc qui ne marche pas en se disant « Non, mais je vais insister jusqu'à ce que ça marche. » Non, des fois. Quand on a bien essayé et que ça ne marche pas, il faut passer à autre chose.
Et elle est où la limite entre le moment où il faut quand même insister pour que tu continues à faire grossir ton projet et que tu crois toujours en ton projet, et le moment où tu dis « Ah non
bah, !» Je pense que la limite, c'est ta créativité. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'idées pour faire mieux ou pour faire autrement, bah tu es à court d'idées et puis ça ne marche pas. Bon, bah, c'est... Voilà, ça ne marche pas. Mais tant qu'il te reste des idées et tant qu'il te reste de l'énergie ou de des manières de faire mieux que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il faut essayer, quoi, pour ne pas avoir de regrets, pour avoir tout essayé.
Okay. Et la dernière question, avec le recul, est-ce que tu penses que ça s'est davantage construit autour d'une vision du futur ? Ou est-ce que ça s'est fait vraiment petit pas par petit pas, des trucs concrets que tu pouvais faire
Alors moi, dans mon cas, non, ça s'est quand même construit autour d'une vision. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la vision. Pour Blablacar, il y a la vision. Pour Dift, il y a la vision. Par contre... en suivant cette vision-là, oui, tu fais plein de petits pas que tu espères être dans la bonne direction. Parfois, tu en fais un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et tu ne vas pas forcément tout droit. Tu fais des petits pas de côté pour quand même mieux passer les étapes d'après. Donc, tout se construit étape par étape, brique par brique. Mais c'est la vision de l'endroit où tu veux aller qui, quand même, est ta boussole, hein, qui te guide. Je ne sais pas comment on fait autrement, en fait, moi, de mon côté. Si tu n'as pas une vision, je ne sais pas comment tu essaies jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas non plus un jeu de Colin Maillard, l'entrepreneuriat. Il faut quand même savoir à peu près où tu vas. Hein. C'est ça qui t'aide non seulement à essayer des nouvelles choses, mais aussi à être motivé tous les jours. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de faire tout ce que tu fais quand tu es entrepreneur, et en plus tu fais des semaines à rallonge, hein, tu vois les 35 heures, c'est fini dès le mercredi midi quand tu es entrepreneur. Hein, tu fais la deuxième semaine de 35 heures, du mercredi midi jusqu'au vendredi soir.
Un peu le week-end.
Et puis tu continues le samedi dimanche. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, je ne sais même pas comment c'est possible. Enfin, voilà, il faut quand même connaître ta motivation. Et c'est ça qui te permet de faire tous les petits pas qui vont bien pour avancer dans la bonne direction.
Trop chouette. Et ta vision, comment tu la définirais, toi ?
C'est... Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est un état futur... meilleur qu'aujourd'hui, que je considère être meilleur pour la société qu'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui, instantanément, me fait dire « Oui, j'ai envie de travailler pour ça. Oui, j'ai envie que ça existe. » Et qui fait que tu n'as aucune hésitation le matin quand tu te lèves à savoir pourquoi tu te lèves. Voilà. Tu te lèves parce que tu vas construire ça et tu es heureux de le faire.
Merci beaucoup.
De rien.
Trop chouette.